Aujourd'hui, nous allons, Be'ezrat Hashem, parler de la clôture du livre de Bereshit. Le livre de Bereshit qui correspond en fait à la couronne. Vous savez que les cinq livres de la Torah correspondent aux cinq partsoufim, aux cinq visages de tout l'édifice qui fait en fait éponge intermédiaire entre l'infini et le fini. Vous avez sûrement entendu parler des 10 sphères, mais dans les 10 sphères, les 10 sphères sont divisées en 5 visages. Ces 5 visages s'appellent la couronne, le Keter, la Chochma, la sagesse, la Bina, la Tiferet, l'équilibre, et la Malchut. Voilà la correspondance. Donc Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Donc le livre de Bereshit correspond au Keter, à la couronne. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre le livre de Bereshit au niveau réel humain, car il s'agit d'un monde qui est comme la couronne du roi au-dessus du roi. Le véritable livre où l'histoire, entre guillemets, va commencer, c'est Shemot. Donc en réalité, Bereshit, c'est la préhistoire. Et la véritable histoire, celle que nous considérons comme histoire, c'est-à-dire celle qui fait avancer le processus divin sur Terre, du dévoilement du divin sur Terre, c'est le livre de Shemot. Donc il est très important de comprendre. La raison en est simple, on ne peut pas commencer l'histoire humaine tant qu'il n'y a pas de peuple. Donc c'est le peuple d'Israël qui va commencer, qui va ouvrir la nouvelle phase qui s'appelle l'histoire. Tout ce qui a précédé, ce sont des individus, aussi grands soient-ils, mais c'est encore des individus. Donc l'histoire ne peut pas commencer à proprement dit. Donc il y a une préparation de l'histoire, une préhistoire, mais la véritable histoire va commencer au moment de l'apparition du peuple juif, du peuple d'Israël plus exactement. Donc nous sommes dans la fin, que nous venons de terminer le livre de Bereshit, ce qui veut dire que nous sommes dans la dernière sphère du livre. Donc c'est comme si on était dans la bouche qui exprime la couronne. On est d'accord? Car dans chaque élément, dans chaque livre, il y a en fait la tête du livre, les yeux du livre, les oreilles du livre, le nez du livre, et la bouche du livre qui exprime tout le livre. Et donc toutes les parachotes de chaque livre ont cette structure-là comme un visage. Et donc la fin de la couronne, c'est la bouche. Ce n'est pas par hasard que dans la dernière paracha que nous venons de lire, Vayechi, il y a en fait bouche versée. P 85 en hébreu. 80 plus 5, 85 versets, c'est la bouche. C'est-à-dire il y a en fait le nombre de versets qui correspond à l'expression buccale. C'est-à-dire l'expression totale par le verbe. Et donc le P s'appelle dans la Kabbalah, Malchut, Malchut Pe, Torah Shebeal Pe. Donc on appelle ça la Torah en fait du verbe, la Torah orale, la Torah de la bouche. Et donc c'est la royauté. Avec des mots simples, ça veut dire tout simplement que la dernière paracha du livre de la couronne, qui est le Bereshit, va exprimer tout ce que vous n'avez pas compris en fait dans le livre de Bereshit, qui est justement tellement haut qu'il est difficile à concevoir. Et donc, on a une dernière paracha, celle qu'on vient de lire, et c'est ce que je vous propose d'expliquer, qui va en réalité nous expliquer, nous faire un résumé de tout le livre de la couronne, de tout le livre de Bereshit. En 85 versets, qui correspondent à la valeur numérique du mot P. Exactement. Au niveau du nom d'Hachem, on est dans le Kosso chez Yud, c'est-à-dire qu'ici nous sommes dans la pointe du Yud. Ici c'est le Yud, après j'ai le He, mais je le marque en H pour ne pas avoir à l'effacer. Après c'est le Vav et après c'est le He. Donc vous avez le nom d'Hachem qui correspond aux cinq livres de la Torah. Et là c'est la pointe de ce Yud. C'est-à-dire la source de la source, la quintessence. Parashat Vayechi, Chotemet et Sefer Bereshit. Donc la parasha de Vayechi clôture le livre de Bereshit. Est-ce qu'on peut éteindre le masgan? Je suis en train de cuire. Comme le poisson, tu peux le remettre sur la plata. Ah. Donc, vous pouvez bouger pendant le cours, ça vous donne de l'adrénaline. Donc, Parashat Vayechi, Chotemet et Sefer Bereshit. La Parashat de Vayechi clôture le livre de Bereshit, Asher hiniach et kol netune a historia enoshit. Et ce livre a déposé en fait, a mis en place toutes les données nécessaires à l'histoire humaine. Klomar, c'est-à-dire, et besis hazira leofat Hashem ba'olam. C'est le fondement de l'arène dans laquelle, de la scène dans laquelle l'Éternel, béni soit-il, va se révéler dans l'histoire humaine. Parce qu'en réalité, l'histoire humaine, c'est Dieu. Vous comprenez? Par l'action des hommes. Dieu agit par nos actions. C'est pour ça qu'on appelle cela, comme par hasard, c'est un jeu de mots, Hesteria, Historia. C'est-à-dire, c'est là où Dieu se cache. Donc, l'histoire humaine, c'est en réalité l'histoire d'Akadosh Baruch Hu à travers les hommes. Kedele galot et ahdut ha'elyona ba'olam. Et pour arriver à dévoiler cette unicité divine dans le monde, c'est difficile. Yesh livnot kli. Il faut d'abord construire un ustensile qui soit shalem. Parce que tant qu'il n'est pas entier, shalem, il ne peut pas contenir les valeurs de l'Éternel. Donc à chaque fois que l'Éternel veut descendre dans ce monde, il doit trouver un kli qui soit shalem. Si le kli n'est pas shalem, vous ne recevez pas les valeurs de l'éternité. Un exemple, la Torah ne peut pas arriver sur terre si tout le peuple d'Israël n'est pas comme un seul homme avec un seul cœur. Donc, ça ne sert à rien de vouloir étudier la Torah d'une manière individuelle. Si vous n'avez pas l'amour de votre peuple, l'amour de votre nation, vous n'arriverez à rien dans la Torah. Et même ce que vous étudiez, vous allez l'oublier. Parce que ce n'est pas possible, au niveau unitaire humain, de dévoiler l'unicité divine. Car l'unicité divine ne peut se révéler que dans la multiplicité que nous sommes, et dans l'amour que nous faisons un avec l'autre, en réalité, pour compléter ce cli de Shlemut. Ve'achduti ben bnei Adam. Et donc, il faut une paix humaine pour que l'unité divine s'y dévoile. Kli, asher yat'im la'achduta Elohit, le'ofia. Donc, il faut que ce kli soit correspondant à l'unité de Dieu. Akli azeh hu am Israël. Et cet ustensile, nous l'avons vu déjà à plusieurs reprises, c'est le peuple d'Israël. Automatiquement, tout ce qui descendra du ciel, entre guillemets, dans tous les domaines que ce soit, ça doit obligatoirement passer par le canal Israël. Tout passe par nous. Si Israël n'est pas le canal de cette lumière, Dieu ne se dévoile pas. Donc il y a en fait des maladies. Donc il y a des guerres, donc il y a du noir, donc il n'y a pas de bonheur, donc il n'y a pas de simcha, donc il n'y a pas tout ce que vous avez envie d'avoir. Il n'y a que si on est canal de cette valeur infinie que ça passe. Le verset le dit clairement, Atem, Edai, c'est parce que vous êtes mes témoins, mes idim, c'est-à-dire vous certifiez mon existence, Va'ani El, alors je suis vers vous. El ne veut pas dire Dieu, mais vers. Ani El, Elecha, Elaïch. Alors, Atem Edai va Ani El. Sous-entendu, Atem Lo Edai, Ani Lo El. Vous n'êtes pas mes témoins, je ne me réalise pas en tant que Dieu, c'est-à-dire je reste dans mon ciel. Vous ne me verrez pas sur terre et la terre en réalité finira en cacahuète. Il n'y a plus rien. Lachen, Chayav Yot Misparo Absisi. Et là, nous sommes face à un secret, d'un chiffre secret, qui est de Shivim, 70. Ça veut dire 70, c'est en réalité, pas seulement les 70 nations, mais les 70 âmes d'Israël qui vont descendre en Égypte. Veshivim neshfesh yardu avotecha mitzraima. D'accord? Pourquoi nous sommes 70 êtres, les enfants de Yaakov qui descendent en Égypte? Parce que chacun d'entre nous, de ces fils-là, correspond à une nation dans le monde. Vous comprenez? Alors, Yosef, c'est Yosef Hayab Mitzrayim. Yosef, ça correspond au pont entre nous et les nations du monde. Donc, c'est une unité qui est en plus. C'est pour ça que Paro savait 70 langues, mais Yosef savait 71 langues. D'accord? C'est-à-dire, c'est un degré qui est le Lashon HaKodesh, qui n'est pas un en plus. C'est un kolel. Je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails, mais en réalité, ce n'est pas encore un. C'est pas que Israël est encore un peuple parmi les peuples. C'est le peuple qui fait le lien entre toutes les nations. Parfois dans le mal, comme ça se passe aujourd'hui, tout le monde vote contre nous, mais à la fin des temps, ça va être dans le bien. Donc aujourd'hui, toutes les nations sont d'accord. Et qui les met d'accord? Qui les unit? Israël. Dans le négatif. À la fin, ça sera toujours nous qui les unissons, mais dans le positif. En attendant, chacun de nous, donc des fils de Yaakov qui vont être la matrice du peuple d'Israël, va correspondre à une nation. Ça veut dire que Réhouven, c'est une nation dans le monde. Shimon, c'est encore une autre nation. Lévi, c'est encore une troisième nation. Et donc, pas seulement eux, ils ont leurs enfants et leurs petits-enfants, Beshiv et Nefesh, il faut qu'il y ait 70 matrices pour descendre en Égypte. Pourquoi? Dit le Gaon de Vilna, donc, vous rattachez, que tant que Israël n'est pas au nombre de 70, l'histoire humaine ne peut pas commencer. Étant donné ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisque c'est à travers Israël que les 70 nations vont recevoir ce qu'elles doivent recevoir, il faut qu'on soit en réalité le canal pour ces 70 nations. Donc, chacun de nous représente une nation. Il est un verset qui le dit clairement. Le voilà, il est en gras. Yasev gvulot amim lemispar bnei Israël. C'est-à-dire, les limites des nations, c'est selon le nombre, le chiffre de bnei Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que je viens de vous dire tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est Israël qui gère le monde, et donc c'est à travers nous que chaque nation reçoit ce qu'elle doit recevoir dans sa vie. Si Israël ferme le canal de passage, la nation en question meurt. D'accord? Ça fait très peur. Ça fait peur aux nations. Mais nous, ça nous donne une responsabilité énorme. Atko, nechela mesimat shalom ben bnei ha'adam. Le problème, c'est que jusqu'à cette paracha de Vayechi, l'essai de faire cette unité mondiale pour recevoir la valeur du divin a échoué. Les gens n'ont pas réussi à faire ce cli qui s'appelle le shalom. A Torah, filou lo iskira velou pa'am achat, dialogue kol sheu ben Adam vechava. La Torah ne mentionne même pas un dialogue, le plus petit soit-il, entre Adam et Ève. Ça veut dire que Adam et Ève n'ont jamais parlé. Sinon, la Torah l'aurait écrit, mentionné. Donc, s'ils se sont parlé, ce sont en réalité des paroles vaines qui n'ont pas avancé, qui n'ont pas fait avancer l'histoire humaine. Pourquoi? Nous avons une règle. Nevoa sheutzrecha ledorot nechteva. Aval ilo utzrecha ledorot ilo nechteva. Ça veut dire que si Adam Arishon s'est levé le matin et a dit à Chava, fais-moi un café, on s'en fiche de ça. C'est pas un dialogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dialogue entre lui et elle, et pas seulement Adam et Ève, mais vous, chacun de nous, doit être tellement fort qu'il doit en réalité être centralisé sur la Géoula du monde. C'est ça que le couple, même individuel que nous sommes, doit faire. C'est-à-dire que quand tu parles à ton épouse, quand tu parles à ton mari, vous devez parler de choses qui font avancer en réalité à Kadosh Baruch Hu et son histoire dans ce monde. Et pas s'arrêter seulement à acheter des chaussures, tu m'as retiré le chéquier ou je ne sais pas quoi. Donc la Torah ne mentionne pas. Ça veut dire quoi? Que dès le début de l'humanité, il y a déjà un échec. Et c'est à cause de cela que Adam et Ève vont tomber, car il n'y a pas eu de dialogue, donc il n'y a pas d'histoire réelle d'amour entre eux. Bimkom le echot et akraim, donc au lieu de réunifier les morceaux, nifredo akochot ashonim, donc les différentes forces entre lui et elle se sont séparés, disloqués, chez la Metziut Atartona, vers Helulit Pazer Baolam. Et donc tout a commencé à se s'éparpiller dans le monde, au lieu de réunir. Sous-entendu ici, c'est que si Adam et Ève avaient parlé, on aurait tout évité et à eux deux auraient amené le Mashiach.
On ne peut pas comprendre que Adam et Ève, c'était tellement complémentaire qu'ils n'avaient même pas besoin de parler.
Alors non, non, parce que le verbe est quelque chose de très important et on va le voir. C'est pour ça que lorsque Adam naît, en fait, est créé plus exactement, la Torah dit « Ve'haïa le nefesh chaya ».« Ve'haïa Adam le nefesh chaya ». Et comment les chachamim, on kelus metargem, ruach memalela, un souffle qui parle. Donc l'homme, dans sa définition, est un parlant. S'il ne sait pas parler, s'il n'utilise pas cette puissance en lui, sachez qu'il va, chas de shalom, tomber. Donc les gens qui ne savent pas s'exprimer ont beaucoup de problèmes à l'intérieur. Et cet ilmout, ce mutisme, ilem, devient alim. Devient en fait une violence. Alim, ilem, c'est les mêmes racines. Dialogue ben Adam le Chava, haya bevadai mesayea limniat hidarderuta shel ha'enoshut. Donc, le plus petit dialogue entre l'homme et la femme aurait annulé en fait toute la dégradation de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, mesdemoiselles, si vous n'êtes pas encore mariées, sachez que la chose la plus importante dans le couple, c'est la parole. Avant tout le reste. Keshel adibur, donc lorsque cette parole a échoué, Haya efo hasiba harishona le kishalon gilui hashalom haolami. C'est là la pointe, la source du problème de ce monde. C'est un manque de savoir communiquer. Vehu ovil exardin mavet ala Adam, et c'est ça qui a causé la mort à l'homme, sur l'homme. Parce que ruach memalela, c'est un souffle de vie. Pourquoi? Parce que le texte dit, le nefesh chaya. Qu'est-ce qui te fait vivre en fait? Ça, c'est le texte de la Torah, Nefesh Chaya, Ruach Memalela, traduction. Un souffle qui parle. Donc, tu n'es vivant que lorsque tu parles. Et que tu sais parler. Et que tu sais jauger et mesurer tes mots. Ça, c'est la vie. C'est ça, la véritable vie. Hachaim vehamavet beyad halashon. C'est tout. Omnam, matzanu dialog minimal ibn Kain lehevel. Donc, je passe une génération, vous voyez, je saute. On a trouvé, et là je vous fais en fait une trame de tout le livre de Bereshit. Rapidement. Vayomer Kain el Hevel Achiv. Qui connaît la suite du verset? Il n'a rien dit du tout. Il a fait meot. Incroyable. Vayomer Kain el Hevel Achiv. On attend quelque chose. Alors je vais vous révéler un secret. Il lui a dit. Il lui a tout dit dans cette phrase. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, tu es mon frère. El Hevel Achiv. Il a voulu en réalité lui rappeler qu'ils étaient frères. Donc il a voulu en fait mentionner la fraternité dans cette phrase. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a rien d'autre à dire. El Hashegam ben Achim Arishonim shel Hamin Haenoshi. Donc parmi ces deux frères du genre humain, Nerchela Mesimat Achva, la fraternité, elle encore a échoué. Ve'adibur alach ve'na'asa alim yoter ve'yoter, à tel point que c'est arrivé par un meurtre. Au meurtre. Car les machins, l'amrod d'Iburo shel l'emer imnesotav, par exemple, un roi l'emer avec ses femmes, quand il leur parlait à ses femmes, ce l'emer en question, les femmes ne répondaient pas. En tout cas, la Torah ne raconte rien. Pourquoi? Ça veut dire qu'il avait un langage violent. Et donc les femmes avaient peur lorsqu'il parlait. Moralité, en réalité, son langage, qui était un langage, il parlait, mais personne ne lui répondait. Donc je vous rajoute une couche, ça ne suffit pas de parler, il faut le parler d'une manière où tu laisses la place à l'autre de répondre. Et qu'est-ce qu'il leur a dit pour leur faire peur? Ish harakti. J'ai tué un homme. Ça vous rappelle rien? C'est le type qui est un petit peu stressé à la maison, il y a un chat qui miaule, Ken, et le type dit au chat, chut, et le chat continue à miauler, et la femme est à côté, et il lui dit, chut, et le chat miaule, il lui dit une fois, et le chat continue, et la femme regarde, et il lui dit au chat deux fois, et le chat continue de miauler, et il lui dit trois fois, il prend le chat, il le tape par terre, il le tue, et la femme en train de gueuler, il lui dit une fois. Ça, c'est de la violence. C'est la même chose. Donc, il est en train de dire à ses femmes, vous savez, j'ai tué. Autrement dit, garde bien ta place et sois heureuse. Et tais-toi. Bedor Amaboul, je passe une génération. À la génération du déluge, Hegia Alimut el Kitsoniut Hadasha, elle est arrivée à une extrême nouvelle. Vatimale Haaretz Hamas. Le Hamas, c'est la pire espèce que l'homme puisse atteindre. C'est bizarre, hein, quand même, qu'ils se sont auto-appelés comme ça. Et c'est une coïncidence, hein. Comme disait l'autre, coïncidence, c'est la connexion des incidents. Ça veut dire qu'en réalité, la terre s'est remplie de Hamas. Bedor Apalaga, dans la tour de Babel, tiens, encore dans la génération où les familles se sont séparées, Anisayon la Shuvela Achvashuv Kachal, Ekevashita Kfiatit. Et là-bas, on a essayé en réalité de faire en sorte de comprendre le problème. On s'est dit, attends, depuis le moment de la création, tout est en train de se casser la figure. Et on fait quelque chose pour unifier tout ça. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont décidé d'être Safa Achat, c'est-à-dire un seul langage uniforme qui ne laisse pas à chacun de nous sa manière à lui de s'exprimer. C'est-à-dire tout le monde doit parler pareil. J'ai fixé et tout le monde devra parler comme moi. Ça veut dire qu'en réalité, bimkom lehovil et haenoshut leachdut, au lieu d'amener à l'unité, on a amené à l'uniformité. Et ça tue. Ha'achidut, donc l'uniformité, nagda et ofia tivi shel ha'ravgoniut. Quand tu veux être avec toutes les couleurs, toutes les nuances, eh bien ça, c'est la meilleure manière de l'étouffer. Pensez comme moi, il n'y a qu'un langage, et c'est le mien. C'est tout. Velachen gamhin yitrata, c'est pour ça que celle-ci aussi s'est cassée la figure. Rak besiyumo shel sefer bereshit, et là on arrive à la fin du livre, à la fin du livre de Bereshit, mitbarer et haouvda ki mesimat ha-tikun hutla al mishpachat Avraham. Quand l'humanité a échoué dans cette recherche de shalom, eh bien c'est donné à la famille de Avraham. La famille de Avraham, c'est Yitzhak, Yaakov et donc Israël. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le rôle qu'Israël a dans le monde, c'est d'amener le shalom, d'amener la paix, d'amener le shalem. Shalem, c'est pas seulement la paix, c'est d'amener l'entité divine. Car le nom shalom, c'est le nom de qui? D'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que vous n'avez pas le droit de dire shalom dans un mikvé, par exemple. Même les hommes, si vous allez au mikvé le vendredi, on ne dit pas Shabbat Shalom dans le mikvé. C'est interdit. C'est le seul endroit où vous pouvez dire bon week-end. Okay? Mais on ne dit pas le mot Shalom, parce que Shalom, c'est le nom d'Hachem. Chiloul Hachem, c'est Chiloul ce nom de Shalom, comme on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a même plus envie de dire ce nom, tellement ils nous l'ont pourri.
Pourquoi ça dans un
mikvé? Tout simplement parce que aujourd'hui, le mot shalom a tellement été galvaudé et réduit de sa véritable hauteur qu'il ne veut plus rien dire. Quand on dit aujourd'hui shalom, c'est en réalité un cessez-le-feu. Reste là où tu es et laisse-moi où je suis, sinon je te tue et tu me tues. Chas
v'shalom.
Il n'y a pas de vrai shalom. Donc, ça a été donné à la famille de Abraham. Abraham velot. Alors Abraham va commencer. Je recommence maintenant dans la petite famille de Abraham. Abraham et Lot. Abraham et Lot, deux personnages de la Bible. Vous comprenez bien que Abraham représente en fait Av, le papa, et Lot représente un écran. En hébreu, Lot veut dire écran, vous savez. Alors, sachez-le. Le nom Lot en hébreu veut dire écran, un rideau, opaque. Donc c'est l'écran d'Abraham, c'est l'antithèse d'Abraham. Donc en réalité, on est en train d'essayer maintenant de faire le shalom entre la lumière et l'écran. Eh bien, Nifredou, ils n'ont pas réussi, donc ils se sont séparés que des limnos aïmout benem pour ne pas au moins se tuer. C'est pas mal. Mais c'est pas encore un shalom. C'est-à-dire, ils ont décidé, toi là-bas et moi ici. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. D'ailleurs, c'est marqué comme ça, hein. Ouvechol, dotaïta, zogisha, shel sur mera, velo, shel asetov. Donc en fait, ils se sont séparés, mais ils n'ont pas compris en fait le dénominateur commun. Donc eux aussi n'ont pas réussi, ils ont échoué. Yitzhak et Ishmael, on passe une génération. Les fils Yitzhak et Ishmael, Chayuzel et Tzadze, ont vécu l'un à côté de l'autre. Argam Benehem, lo ayashum dialogue. Il n'y avait pas de dialogue puisque la Torah n'en parle pas. Hachlav triato shel Ishmael michutz latmuna, jusqu'au moment où on a été obligé de retirer Ishmael de l'image, du film. Et c'est Yaakov, une génération plus tard, ve Esav, Yaakov et Esav, encore deux frères, là ça se complique. Pourquoi? Ce sont des jumeaux. Et là il y a un problème. Quand c'est des frères, déjà il y a un problème. Mais là c'est des jumeaux. Kimat ve shukhzar amaate shel Kain ve Eved, c'est-à-dire on est arrivé presque au meurtre. Parce que chez les jumeaux, et on va expliquer tout de suite au niveau psychologique comment les choses marchent. Ela sheit arvuta shel Rivka man'a et shfichut adamim. Donc la maman Rivka est venue et a empêché le crime. Et sel bnei Yaakov magim anu lesich hadash. Eh bien, chez les fils de Yaakov maintenant, on arrive à un nouveau sommet. Là aussi. Au départ, ça va dans la même direction. Les frères vont Yosef. Ils disent même qu'il est mort, ils savent même plus où il est. C'est fini. Donc on est encore dans le même schéma. Vous comprenez qu'il y a ici, en fait, comme un renouvellement qui recommence. Ça veut dire que si vous n'avez pas réglé un problème, il revient. Et donc, donc malgré la séparation au départ, il y a eu, Baruch Hashem, une intelligence de ses fils pour retrouver le shalom entre eux. Chacun a reconnu en fait ce qui manquait, que ce qu'il pouvait trouver chez l'autre qu'il n'avait pas chez lui. Et donc au départ c'est le texte qui le dit, il ne pouvait pas parler de shalom à Yosef, ils sont arrivés malgré tout à la fin à une reconnaissance mutuelle. Et là, non seulement ils étaient fâchés au départ, ils se sont réconciliés à la fin, mais même ce qui était au départ comme séparation a servi quand tu sais faire la paix à la fin. J'explique. Quand tu te sépares de quelqu'un, mais que ça se termine bien à la fin, ta séparation aura servi à quoi?
À mieux te rapprocher.
Pourquoi?
À réparer.
Non. Non. À dévoiler ta partie à toi. Parce que la séparation fait en sorte que moi je devienne entièrement moi, et lui devienne entièrement lui. Et l'intelligence c'est d'être entièrement moi, et lui entièrement lui, et de nous unir. Ça, c'est la force. Alors que dans une paix semblant paix, qui n'est pas vraie, c'est ce qu'on appelle une pshara. Qu'est-ce que c'est une pshara? Un compromis, c'est-à-dire, compromis, tu es... Je voulais inverser les mots. Non, peu importe, c'est un jeu de mots. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas entièrement toi et moi, je ne suis pas entièrement moi. Donc on se ment. Et ça, c'est pas un shalom. Vous comprenez la différence? C'est extraordinaire. Ça veut dire que chaque sphira doit garder sa spécificité. Sinon, tu es mort. Et c'est pour ça que malheureusement, dans les couples, si l'homme n'est pas resté ce qu'il est et la femme n'est pas restée ce qu'elle est, eh bien, en réalité, ils sont morts un petit peu tous les deux, ou bien un d'entre eux.
Il va falloir aussi être un petit peu soi-même pour être aussi avec
la place à l'autre. Non. Je dois être entièrement moi-même. Tu dois être entièrement toi. Mais moi, je sais que à moi seul, je ne peux pas révéler l'infini, béni soit-il. J'ai besoin de toi. Mais ça ne veut pas dire que je fais fi de ce que je suis. C'est ça l'intelligence. C'est-à-dire, je reste dans ma chita. Lui reste dans sa chita, mais je sais que ma chita n'est pas complète et la sienne non plus. Ça, c'est la force du vrai shalom. Donc chacun devait révéler sa spécificité, son identité. Veim kolzot, et malgré cela, rak bepsirato shel Yaakov itgala beofen barur vevadai hashalom ben ha'achim. Donc en fait, on voit à la fin de tout ça que chacun est un lion dans ce qu'il est, véritablement entier dans ce qu'il est, Et d'ailleurs, c'est Yaakov qui dit à chacun ce qu'il est réellement dans sa spécificité à lui, et c'est pas l'imitation de l'autre, eh bien, tous ensemble vont construire la maison d'Israël, et ça, ça va se voir une fois que Yaakov va mourir. Donc Yaakov va mourir. C'est bizarre. Il y a marqué Vayechi Yaakov. Alors c'est bizarre. Yaakov vit ou meurt. Je comprends pas. Eh bien, Vayechi Yaakov, ils vont continuer la suite du texte. Vayechi Yaakov, Efo, Be'eretz Mitzrayim. Yaakov peut vivre en Égypte. Qui ne peut pas vivre en Égypte? Israël. D'où est-ce que vous le savez? C'est un verset, juste après. Vayikrevu Yeme Israël, Lamout. Donc Yaakov, c'est le juif de l'exil, et Israël, c'est le juif d'Eretz Israël. Donc qui peut vivre en fait en Houtz-Laharet? Yaakov. Tant qu'il Yaakov n'est pas devenu Israël, il n'est pas encore un homme de la Géoula, il est encore l'homme de la Galoute. Alors pourquoi, quand on a changé le nom de Yaakov et qu'il est devenu Israël, pourquoi de temps en temps il se rappelle encore Yaakov? Bien, ça permet au peuple d'Israël de survivre dans les moments d'exil. Pour ne pas qu'on meure totalement, Dieu nous a gardé ce nom qui est en fait une protection qu'à chaque fois qu'on sortirait Chas v'Shalom en exil, maintenant c'est terminé. Mais chaque fois dans l'histoire où on est sorti, on est descendu au niveau de Yaakov pour pouvoir vivre. Vayechi Yaakov v'Eretz Mitzrayim. D'accord, vous comprenez? Maintenant donc vous comprenez que Yaakov c'est quoi? C'est l'homme qui est capable de garder un lien avec l'infini, même en exil. Traduisez-moi ça en halakha. Tout ce que je viens de dire. Yaakov, c'est l'homme capable de garder un lien avec la lumière divine, même dans la nuit de l'exil. Traduisez-moi ça en halakha. Yaakov, c'est lui qui a fait Tfilat Arvit. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov a fait Tfilat Arvit? Vous croyez qu'il s'est assis, il a dit, bon, allez, c'est pas ça, faire Tfilat Arvit. Faire Tfilat Arvit, c'est être capable d'appréhender le divin, balayelot, dans la nuit. C'est ça, faire Tfilat Arvit. C'est extraordinaire. Ce que je viens de vous dire, c'est le Rav Kook. Ça, c'est de la Torah énorme, ça. Ça veut dire que Yaakov permet à un homme qui est dans la nuit de pouvoir garder le contact avec la source de la vie. Donc faire Tfilat Arvit, l'écrire Tfilat Arvit, c'est en réalité instaurer dans le peuple d'Israël un système qui nous permet de vivre ou de survivre même pendant les torpeurs de la nuit.
On le fait ici, on
est ça. Ça veut dire que même quand tu as des soucis, ça s'appelle ton Arvit. Et donc, Arvit vient du mot Mehorav, il y a tout qui se mélange, tu ne sais plus où tu en es. Donc, qui va te permettre de garder le lien avec la lumière? Arvit. Donc, faire Arvit, c'est garder cette lumière même dans la nuit. Ve'emunatra valelot. Ça, c'est Yaakov. Me'atan itanayel atril be'ofen effektivi et tikuno shel ha'olam. Donc, à partir de maintenant, qu'on a ce shalom entre les frères, on peut commencer le tikkun du monde. Qu'est-ce que c'est que le tikkun du monde, rappelez-vous? C'est de faire en sorte que la lumière de Dieu descende. Et pourquoi on peut commencer à le faire? Parce qu'il y a un clic qui s'appelle le shalom. Sium sefer bereshit mehave be'etzem et trilata ha'amitit shel ha'historia. Ça veut dire qu'en réalité, la véritable histoire commence à la fin du livre de Bereshit, donc au début du livre de Shemot. Avant, c'était donc, comme je vous l'ai dit au départ, de la préhistoire. Donc, Parashat Vayechi, Yisod Achanato Shel Israël et Matav HaGalut. Donc, pouvoir vivre Vayechi en Égypte, c'est la préparation de Yaakov pour tout le peuple d'Israël, pour tous les exils qu'il aura durant toute son histoire. Vous comprenez? Parce que Yaakov, c'est notre matrice. D'accord? Donc, qui est passé chez Yaakov, ça va passer dans les gènes de ses enfants. Donc si Yaakov a pu vivre en Égypte, ça veut dire que nous allons pouvoir vivre en exil pendant 2000 ans. Grâce à Yaakov qui a vécu en Égypte. Mais à la fin, il faut continuer l'histoire. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il faut me ramener. Et après son fils dit, il faut me ramener. Et après tous les enfants vont sortir de là-bas. Et ça aussi, la sortie d'Égypte va rester en fait la matrice de quoi? De la délivrance. De la même manière que la descente en Égypte était la matrice de tous les exils, la sortie d'Égypte sera la matrice de toutes les délivrances. Je parle clairement, c'est simple ce que je dis. Et ça c'est une parole de la Gemara, Yaakov Avinu tiken tfilat arvit. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est Yaakov qui nous a instauré cette prière de arvit, sod ve'emunatra balelot, le secret donc de la emuna pendant qu'il fait nuit. Donc, vayechi Yaakov veret mitzraim, zo haetcharut shel Israël lisrod bagalut. Donc, pour que Israël puisse un jour rester en galoute et ne pas mourir complètement, eh bien il faut qu'il s'appelle Yaakov. C'est un système de sécurité. Aliedech azarato lishmo amekori Yaakov. Donc on lui permet de revenir à son degré Yaakov. Agmishut azo. Donc il y a ici une certaine souplesse de deux noms. En fait, c'est pas deux noms, c'est deux états. Deux états d'esprit. Quand tu es en exil, eh bien, tu gardes un profil bas et tu t'appelles Yaakov. S'il faut raser les murs, tu vas raser les murs. Quand tu reviens en terre d'Israël, tu t'appelles déjà Israël, qui sarita im Elohim ve im anashim vatuchal. Tu deviens un guerrier. Extraordinaire, c'est fort. Agmishut azot me'afsheret et ha'ma'avar ha'chad mimatzavei hashlemut lematzavei hashiflut. Donc, c'est ce qui nous permet tout le temps d'être tantôt en haut et tantôt en bas. Et c'est comme ça l'histoire d'Israël. Jusqu'à la fin des temps où on va redevenir complètement Israël et plus encore Yeshurun. Voilà, j'ai répondu, juste avant. Lachen, mitzad echad ne'emar, vayechi Yaakov eret Mitzrayim. Donc d'un côté il est écrit que Yaakov a vécu en Égypte, mais idach, d'un autre côté, il est écrit vayikrevu yeme Israël lamut. Israël est en train de mourir. Attention, il ne meurt pas, vayikrevu, il est proche de la mort. Comment on s'appelle en exil, Asamot Yeveshot, Ézéchiel 37. Nous sommes des ossements desséchés. C'est-à-dire, c'est déjà presque la mort totale. Hein. Et qui sur ces eaux, en réalité, c'est les Talmidei Chachamim qui restent encore un tout petit peu de lumière. Mais en fait, ce sont des ossements desséchés. Et donc, Akadosh Baruch Hu va prophétiser le prophète Ézéchiel. Il va dire à tous ces eaux de se rassembler, de reprendre de la peau, de la chair et tout ça, des muscles, et de se relever. Et il dit, ça c'est la maison d'Israël lorsqu'elle reviendra sur sa terre. Netiya shel koma ha'leumit Israël lamut. Donc il y a une certaine tendance à mourir en exil. Pour qui? Pour Israël, pas pour Yaakov. Yaakov vit. Quel? Exactement. C'est triatametim. La véritable triatametim de la Torah, c'est, et c'est écrit là-bas, Ve'eleti et kivrotechem, je vous sortirai de vos tombeaux, Ve'eveti et echem el admatrem, ou chitem, et là vous allez vivre. Ça veut dire on était mort, on est sorti, on devient vivant. D'ailleurs, chaque fois qu'une femme accouche, c'est une résurrection de mort, puisque la partie par laquelle le bébé sort s'appelle dans l'Agmara kever, un tombeau. Rien que ça. Rien que ça. Donc, les chachamim, quand il parle de cette partie du corps de la femme, il l'appelle Kever. Donc Yetziata Kever, c'est le bébé qui vient de la mort vers la vie. Non. Hayelodim Lamut, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça fait une Mishnah qui dit qu'il est sorti, malheureusement, dans un monde où on finit par mourir. Pour l'instant. Mais à la fin des temps, non. Bila Hamavet Lanetra. Bisman Shapratim, donc Yaakov, Chaim ve Poalim Bagalut. Alors Yaakov, c'est en réalité la mise en relief de qui? Du détail. C'est pas la nation. La nation s'appelle Israël. Maintenant vous comprenez. Yaakov, c'est vivre en tant que détail. Un homme privé avec sa femme, son petit Shabbat religieux, la synagogue, le petit machin, l'école juive, machin. La petite communauté. Ça, c'est ce qu'on appelle Yaakov. Attention, c'est pas le peuple, c'est une communauté, c'est pas la nation. Alors, il se fabrique un petit système, okay, d'autorégulation religieuse, okay, une petite vie tranquille. À 3 km², il y a tout ce que j'ai besoin. J'ai la boucherie en bas, le machin ici, un petit croissant cachère, un petit machin. Et l'école juive pour les enfants. Ça, c'est Yaakov. C'est très petit, c'est pas un peuple. Mais, c'est nécessaire pour faire le travail. qu'il y a à faire en exil. C'est-à-dire, et on va le voir tout à l'heure, récupérer ce qu'on a à récupérer. Le problème, c'est de ne pas oublier. Parce que des fois, tu rentres pour récupérer, mais tu te perds là-dedans et tu restes. Et c'est ça le problème. Donc, Zichron Israël, le souvenir de la notion Israël, Chayav le Ishamer, on est obligé, même quand on est Yaakov en exil, on doit continuer de rêver à qui ? À redevenir Israël, une nation sur sa terre. Sinon, tu vas te construire une communauté, tu vas mourir à l'intérieur. Et un jour, j'étais à Montréal, il y a un immeuble qui doit faire 300 mètres de long. Un immeuble. Je suis rentré ici, et je suis sorti de l'autre côté, ça m'a pris une journée. Je rigole pas, écoutez bien. Ici, il y a les bébés qui naissent. Il y a les petits gannes pour les enfants. Ici, il y a un petit machin de Kita Alef Bet Gimel, les professeurs, ils sont ici d'Alef Heivat Zain, etc. Ici, il y a un petit truc d'université avec un centre de foot. Tout ça dans l'immeuble, hein. Baseball, machin à l'américaine, tout ça. Ici, les mecs, ils commencent à devenir universitaires, ils commencent machin. Ici, il y a un truc de chidouchim pour ce machin, etc. À la fin, ils meurent. Et il y a les enterrements derrière. Je vous jure que c'est comme ça. Hein. Écoutez-moi, c'est extraordinaire, j'aurais pas pu inventer un truc pareil. Hein. Ça veut dire que quoi? C'est ça en réalité la vie en exil. C'est de quoi on s'occupe en exil? De la naissance, Brit Mila, machin, tatati, tata, bar mitzvah, petit, un petit asvan, petit machin, à la fin tu meurs et c'est fini. Voilà, les enterrements, les machins. Il n'y a pas de nation, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de structure politique, il n'y a rien. Ken, je vous ai envoyé, peut-être vous l'avez reçu, le Ramak Rabbi Moshe Cordovero, Ken, dans le Zohar, qui parle en réalité de ce pourquoi les nations nous en veulent, c'est parce qu'on a créé un État. Tant qu'on est des juifs paumés, on ne gêne personne, même en Iran, il y a des juifs. D'accord ? Donc, ceux parmi nous qui ne comprennent pas l'importance de l'État, en réalité, vivent encore comme Yaakov dans une communauté, sauf qu'ils ont déplacé la communauté pour l'amener ici. Mais c'est pas ça. Hein ? D'accord ? Mais on ne les gêne pas en tant que nation seule, à droite, à gauche. C'est pas ça qui les gêne. C'est pas ça qui les gêne. Hitler a voulu nous exterminer pas parce que nous étions des détails ou parce que nous voulions. Parce que tout simplement nous étions le peuple qui représente la morale divine sur terre. Et pour lui, l'être moral, moraliste ou moral ou éthique, c'est faible. Et il n'y a pas dans ce monde de la place pour les faibles. Et il a pensé qu'il était lui en fait l'enfant élu. Et donc il s'est dit, ou eux, ou moi. Tant qu'il y a encore un juif dans le monde, moi je ne peux pas me dévoiler. Donc c'est autre chose. Alors, c'est une pensée, il faut l'étudier pour savoir ce qu'ont nos ennemis dans le ventre. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est notre faiblesse, on ne sait pas décrire ou définir plus exactement nos ennemis. Et c'est une halakha dans la Torah. Ve'ayavta et oivecha. La plupart des gens, même des Israéliens, ne savent pas ce que ça veut dire. Ve'ayavta, à l'infinitif, les ayev. Les ayev, c'est rendre oyev. C'est-à-dire définir l'ennemi en tant qu'ennemi. Et pas en tant que partenaire. Vous comprenez? Tant que tu ne sais pas mettre les mots, eh bien, c'est un partenaire pour la paix. Donc, Chayav le'ishamer gam b'sha'a she'anachnu mofiim ke'Yaakov. Israël ou à idéal. Donc ne jamais oublier Israël qui est le premier étage, l'étage de l'idéal. Ayat shelav aleinu lashuv ulegalot v'siyum berur hanitzotzot min hagalut. C'est à ça qu'on doit revenir à la fin de toute la récupération de tous les étincelles qui se sont brisées au moment de la création du monde et que nous devons ramener ici. Alors ces étincelles, vous les avez ramenées. Chacun d'entre vous a ramené des étincelles. Chacun de nous avec ses connaissances, avec son esthétique, avec ce que vous voulez. Chaque nation est revenue. Aujourd'hui, nous revenons de 120 pays différents en Israël. Vous rentrez dans une pièce d'Ulpan, vous devenez fou. Il y a de tout. Quand on est sorti d'Égypte, on est sorti que d'un seul pays. Regardez la différence. 1 sur 120. Alors, je vous pose la question. La Haggadah de Pessah, dans quelques années, elle va être en réalité 1/120 de la nouvelle Haggadah. Ça veut dire que si votre Haggadah va faire 120 pages dans 10 ans, la sortie d'Égypte ne prendra qu'une page. Et tout le reste parlera de quoi? De votre retour, de notre retour, aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis, c'est une prophétie. Loye amer od, chei Hashem, asher hotzi otanu me'eret mitraim. Ela chei Hashem, asher hevianu me'eret safon, umikol ha'aratot. Dans le prophète Ishaïa. Ça veut dire, Isaïe nous dit, vous ne direz plus merci à Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Ça sera une histoire du passé. Vous direz merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir sorti de Paris, de Hambourg, de machin. Et de Strasbourg. Hein? Il y a un problème, hein? J'ai un truc avec ça d'abord. Gabesha, Shanu Poalim, que Yaakov. Donc, même lorsqu'on travaille en tant que Yaakov, donc nécessaire, hein? Assur l'anou l'ishkoach et ashlemut amefoara, chez la binyan aleumi amouchan avorenu, Israël. Oy va avoy, malheur à nous si on oublie qu'on est à la base Israël. Même pendant que tu travailles en tant qu'individu, Yaakov, n'oublie jamais que tu es Israël à la base. Veine, asarkan arashi ben hagato shel Yaakov bagalut, hino Yosef. En qui est l'acteur principal dans le juif de l'exil? Yosef. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est l'intermédiaire entre Israël et les nations. Égypte ici, ne le prenez pas comme un pays, c'est les nations du monde. C'est la représentation des nations. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit, Yosef? Pour pouvoir créer un nouveau système, je vais en réalité, puisqu'on m'a jeté, mes frères m'ont jeté, mon père, personne ne pense à moi, tout le monde m'a oublié, je vais me construire une nouvelle vie ici. Donc, le premier fils qui va naître, je vais l'appeler l'oubli. Non, Menaché. C'est pas un dit du chiffre là. Donc, le premier fils va s'appeler Menaché. Que veut dire Menaché? Oublié. Kinashani Hashem Ibetavi. Ça veut dire on m'a oublié, donc moi aussi j'oublie tout le monde. Donc Menaché, celui qui me permet, les Nashot, l'Inshot, Neshia en hébreu, Gid Hanashé. Le nerf sciatique, c'est le nerf de l'oubli. Et qui, comme par hasard, fait partie de Nashim, les femmes. Mais ça, c'est encore un cours à part entière. C'est-à-dire? À quand? Ça, les femmes, ça, c'est les femmes. C'est-à-dire? Guide Hanashé. C'est-à-dire le membre qui te fait oublier. Dans le bien comme dans le mal. Attention. Mais l'Ochachou. Deuxième fille qui s'appelle Ephraim. Que veut dire le mot Ephraim? Se multiplier. Pérou, Urvou. Donc, Yosef a eu deux enfants. Le premier, il a appelé d'abord, j'oublie. Et deuxième, maintenant je me développe. Vous comprenez, ce sont des codes. C'est pas Sam, il a eu deux fils et il les a appelés comme ça. Et Pinhas ou je sais pas quoi, ou Jean-Claude. C'est pas ça le Inyan. Ce sont des codes. Et donc la Torah vient nous enseigner. Vehem sod, hashichecha, vehatlacha. Donc d'abord j'oublie, et après je réussis.
Ah bah tu es toujours en exil.
Bien, donc la chita de Yosef, pour l'instant, c'était l'exil. Donc lorsque Yaakov apparaît comme le papa pour nous enseigner en fait la vie en exil, qu'est-ce qu'il fait dans la paracha de cette semaine? Il croise les mains. Il bénit le plus petit en premier et le plus grand après. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord la réussite avant l'oubli. C'est-à-dire qu'il dit à son fils, et son fils s'énerve, Ichar af Yosef. Il s'énerve, il dit à papa, mais c'est pas comme ça, tu vois rien, toi, et tu vois pas que... Il dit, Adat, Ibni, Adat, calme-toi, Targia. Je sais exactement ce que je fais. Si tu veux qu'on sorte un jour d'ici, arrête d'oublier. C'est fini. Souviens-toi. Et ça, c'est Ephraim, l'Ifne Menaché. Et tu vas oublier quoi maintenant? Menaché, on va pas le tuer. Tu vas oublier l'exil. Maintenant, c'est-à-dire, on va faire une inversion des choses. D'accord? Donc, en réalité, Makdim et Ephraim les Menachés, Kedesha Abinyan, Loye Meyusad Aliesod Ashichecha Shel Bet Abba, tu peux plus construire ta vie en voulant toujours te fuir la maison de ton père. C'est pas une manière de vivre, qui est toujours collée à papa que je veux pas voir. Vous comprenez? C'est-à-dire, je suis toujours avec une référence, celui qui me gêne. C'est pas comme ça, tu peux pas construire une vie. Tu dois aller vers quelque chose dans ta vie. Or, en exil, qu'est-ce qu'on fait? On se sauve toujours. Je me sauve de cette communauté parce qu'il n'y a pas assez de juifs. Je me sauve de ce truc. Je me sauve. Tu vas jamais vers. Tu te sauves. En Eretz Israël, on commence à aller vers. Et c'est ça, il y a un switch dans la tête. Ceux qui n'ont pas compris ça, ils ont encore un problème parce qu'ils vivent encore, comme en exil, un petit peu ici. Donc, Menaché, elle a mis toch zichrona vehem shichiyuta chez la Megama Elohit Ephraim. Mereshit Abria, navu kol ma'avakea enoshut meretzonam shel abechorot leitpater me'achem. Donc, je reviens, je clôture. Depuis le début des temps, tous les frères aînés ont voulu tuer leurs frères. Les cadets. Pourquoi? Règle. Hateva meyatser bechorot. La nature fabrique des premiers-nés. On est d'accord? Veoua ben. Donc, le premier-né s'appelle Ben. Que veut dire Moshe d'ailleurs, en égyptien? Fils, Ben. En langage égyptien, Ben égale Moussa. Moussa, c'est Ben. Ça veut dire quoi? Le fils, c'est le fils de qui? De ses parents. Donc, qui a fait qui? Le fils ou les parents? Ça veut dire que c'est le fils qui a fait les parents. Ils n'étaient pas parents, ils étaient hommes-femmes. Donc, il leur dit, moi je vous ai fait. Mais comment tu nous as fait? Ben oui, vous étiez homme-femme, je vous ai rendu papa-maman. Ah, grâce à moi. Donc, je suis le fils. Bimlom ou vanamila. Ou amorked ayachid leitianenutam shela orim. C'est-à-dire, c'est le summum, le centre même de la pensée des parents. Le premier, c'est toute la famille, les grands-parents, les majeurs, tout le premier reçoit tout. Et c'est pour ça qu'on le tord d'ailleurs, le premier. La même chose, c'est la première de la famille, la première qui est née, donc tout le monde, les cadeaux, les machins. C'est-à-dire qu'on met tout notre espoir du futur en lui. D'ailleurs, la femme qui accouche le premier-né, elle a un problème. Elle rentre, et elle peut rentrer, elle peut tomber dans un système de dépression. Pourquoi? Parce qu'elle a bien de créer qui? Le futur. Donc elle est rejetée au passé. Vous comprenez? Et ça, c'est un degré de post-traumatisme à cause de la naissance. Qu'il faut régler, qu'il faut gérer. Chazvé Shalom, ne pas laisser comme ça. La reine de Rega Shenolad arrive. Maintenant, on va s'adresser à l'enfant. Quand le premier-né, il est né, il était heureux pendant 2 ans. Le roi. Quand son frère est né, ou au fait Chabechor mi Ben, les Archel, il n'est plus le Ben, il devient le frère de. Donc il y a une gêne maintenant. Mais Ata ou Achraï le Zulato, non seulement il a le frère, mais il doit en plus s'en occuper, c'est-à-dire il devient responsable de celui qui vient d'arriver. Donc tout le centre qui était focalisé sur lui maintenant se déplace sur le nouveau. Réamishkal Moutem Imeno le Kivunachi. De Open TV, donc naturellement, donc immédiatement, se réveille en lui intuitivement un contre. Et il veut annuler au fond de lui le nouveau frère de l'existence. Donc il veut redevenir le ben qu'il était au départ, et plus le frère d'eux. Regardez bien, un jeu de mots, lo roseach, roseach. Ça veut dire, je ne veux pas du frère, donc je le suis. Voilà l'histoire de Cain et Hevel, raccourci sur un pied. Atacharut al goral ha'enoshut shemit'atsem beyeter set, shemedubar ba'achim te'omim Yaakov et'av. Alors quand les jumeaux naissent, ça devient la totale. Hein? Et regardez bien, Vayomer Esav Belibo, Esav dit dans son cœur, Yikrevu Yeme Evel Avi, quand papa on va arrêter le deuil, Veaharga et Yaakov Achi. Et je vais tuer mon frère Yaakov. Alors c'est étonnant et c'est très intéressant. D'un côté il veut le tuer, mais il continue de l'appeler mon frère. Magnifique. Regardez la force de la Torah. Il aurait pu dire, je vais tuer cette, je sais pas quoi. Il dit non, c'est mon frère. Et ça, c'est la roguette Yaakov. Ou meïdachoua daim mechaneoto achi. Il sait encore que c'est son frère. Ça veut dire que intuitivement, il a gardé quelque chose dans son essence. Klomar davka viglal heyoto achiv. C'est justement parce qu'il est son frère. Il veut l'éloigner de sa vie parce qu'il le gêne. Zot asher bikesh Yaakov letaken bebo el charan, on finit en beauté, c'est ce que Yaakov a cru, a pensé, réparer, en faisant quoi? En arrivant à Haran, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il s'est dit, je vais faire en réalité, je vais fabriquer que des Bechorot. Et donc je vais me marier avec 4 femmes. Donc je vais avoir un Bechor, un Bechor, un Bechor, un Bechor, ils veulent tous être Bechor, plus un va tuer l'autre. Vous avez compris le système de Yaakov dans sa tête? Vayomer Yaakov et Lavan. Alors écoutez, ben, un mishpat de Yaakov dans la Torah qui nous laisse pantois, si ce n'est quoi, comme dirait mon ami Ronny. Qu'est-ce que dit Yaakov à Lavan? Hava et ishti. Alors, si vous voyez ce verset, les chachamim avaient honte. Regardez comment s'exprime Yaakov. Donne-moi ma femme, qui malou yamaï va avoir elle, j'ai envie d'aller avec elle. Et encore, c'est plus cru que ce que je viens de dire. Regardez bien ce que dit Rashi Bamakom. Halokal Shebakalim, le plus léger des hommes, et une américaine. Il ne peut pas s'exprimer comme ça. Comme ça, Yaakov, tu parles, t'as pas honte? El aleoli toladot amarka. Alors Rashi explique pourquoi. Parce que je veux avoir des enfants et des premiers-nés de toutes ces femmes. C'est ça qu'il avait dans son esprit. Yaakov Rashav, Shapitaron le sinat ha'achim. Donc il pensait que la réparation, la correction de toute la haine qu'il y avait jusqu'à maintenant dans ce monde, ou dafka beoladat kama bechorot, je vais engendrer beaucoup de premiers-nés. Arba bemispar, 4 en chiffres. La suite au prochain épisode. Non, les premiers-nés. Nakhon, Nakhon, Nakhon. Toda rabba, quel?